Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Sanctions des États-Unis contre James Kabarebe et Kanyuka pour leur rôle dans la crise à l'est de la RDC. Ce geste marque le début d'une longue série des sanctions que nous espérons plus robustes, estime le ministre congolais de la Communication. Mais pour le Rwanda, ces sanctions sont injustifiées et ne résolvent pas les problèmes de la région. Le comité international de la Croix-Rouge vole au secours des déplacés, sommet de vider les sites dans et autour de Goma, au Nord Kivu. Le CICR dit avoir entamé la phase d'évaluation des besoins humanitaires dans les localités devant accueillir ces familles exilées depuis des années. Annonce faite mercredi à Goma. Et puis, où en est-on avec la campagne de collecte de dons de sang lancée depuis 3 semaines à Kinshasa, collecte en faveur des militaires FARDC et des civils blessés de guerre dans l'est du pays? Pour en savoir plus, nous recevons le docteur Liliane Bouiza, directrice du Centre national de transfusion sanguine. Madame, Messieurs, bonjour. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et à Laurence Kanyuka, porte-parole civile du mouvement du 23 mars, M23. Ce bureau justifie sa décision par l'intention de tenir responsables les dirigeants clés tels que Kabarebe et Kanyuka, qui permettent au RDF et au M23 de mener des activités déstabilisatrices dans l'est de l'RDC. Et de commettre des violations des droits de l'homme. Bien que cette mesure soit accueillie favorablement en République démocratique du Congo, le Rwanda craint que cette décision ne résolve pas les problèmes de la région. Ronéline Tibonera.
Réagissant à ces sanctions sur sa page Twitter, Patrick Muyaya, ministre congolais de la Communication, a déclaré que ces gestes marquent le début d'une longue série des sanctions que nous espérons plus robustes de la part du Conseil de sécurité, de l'Union européenne et d'autres partenaires afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles sur notre sol, a-t-il écrit. Les ministres rwandais des Affaires étrangères qualifient ces sanctions contre James Kabarebe d'injustifiées. Dans un communiqué rendu public jeudi, ces ministères rappellent que si les sanctions étaient un moyen sûr de ramener la paix dans la région de Grand Lac, cette paix aurait dû être une réalité depuis longtemps. S'invitant dans les débats, le mouvement citoyen Lucha RDC Afrique considère ces gestes comme apportant un certain soulagement. Cependant, cette organisation appelle les États-Unis à étendre ses sanctions à d'autres personnalités clés impliquées dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a déclaré Espoir Mouinouka. Ces sanctions interviennent alors que le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit des offensives militaires dans l'est du pays après avoir pris le contrôle de la ville de Bukavu dimanche dernier.
Entre-temps, il s'est tenu hier à Lubumbashi un culte œcuménique pour la paix, culte organisé par une délégation de la CENCO et de l'ECC. Cette délégation revient d'une tournée afro-européenne où elle a rencontré plusieurs acteurs qu'elle considère comme pouvant contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs et en RDC en particulier. Durant ce culte, outre la CENCO et l'ECC, d'autres confessions religieuses y ont pris part. C'est notamment les kimbanguistes et les musulmans. Tous appellent à la paix et au vivre ensemble. Cette rencontre était aussi une occasion de mobiliser la population dans le cadre de la campagne dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Jean Gandou, reportage.
Le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a d'emblée expliqué le sens de la démarche que mènent ces deux confessions religieuses. Pour lui, depuis plus de 3 décennies, les tentatives tant militaires que diplomatiques ont démontré leurs limites, car les conflits armés demeurent toujours. Ils ont occasionné la mort de plusieurs milliers de personnes et poussé plusieurs millions d'autres à l'errance, à la famine et à la misère de toutes sortes. Face à cette triste réalité, seul le dialogue paraît comme une solution dans le cadre de ce qu'ils appellent pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Ils en appellent donc à l'organisation d'un forum pour la paix. Cette rencontre ne mettra pas le saint en face des diables, plutôt les uns à côté des autres, afin de se parler pour aplanir les divergences et surtout renforcer le vivre ensemble au lieu de recourir aux armes. Pour le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, si le jugement des uns vis-à-vis des autres prend les déçus sur le pardon, il est donc difficile d'arriver à la paix. Il a appelé tout le monde à se réexaminer pour voir si on est encore dans la bonne direction. Il a conclu en disant que le Congo devra rester un et indivisible. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, le gouverneur de la Tchopo appelle la population de cette province au calme et à vaquer paisiblement à ses occupations. Cet appel est contenu dans un message diffusé à la Radio-Télévision nationale congolaise à longueur des journées. Ce message de l'autorité provinciale intervient dans un contexte des folles rumeurs qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux depuis quelques temps. Rumeurs faisant état de la présence des rebelles dans cette entité. Paulin Lendongolia rassure, la population peut vaquer paisiblement à ses occupations. Voici un extrait du message du gouverneur de la Tchopo, sélectionné par Jacques Moukonkole.
Bazali kobangi sabino kopesa bino ba information ya lokuta ezali baini bakolinga.
Ils sont en train de vous effrayer en vous donnant des fausses informations. Ce sont des jaloux qui veulent vous pousser à abandonner vos maisons pour qu'ils viennent se livrer au pillage. Je vous rassure, la ville de Kisangani est sécurisée. Vos services de sécurité ont déjà pris des dispositions idoines pour la protection de la population et c'est bien. Que chacun vaque à ses occupations habituelles. Que les jeunes se fassent enrôler au service militaire pour la protection du territoire national afin que nous puissions léguer cette terre à nos enfants comme nous l'avons hérité aussi de nos ancêtres. Restons vigilants. Au moment où notre province prend l'élan du développement, ce n'est pas le moment de reculer, de vivre la barbarie que l'armée rwandaise est en train de commettre en RDC.
Ce n'est plus le moment ya ko zonga sima ko vivre barbarie oyo armée rwandaise iza ko commettre na kati ya république.
Abordant dans le même sens, le commandant de la 31e région militaire exhorte la population à ne pas céder à la panique. Dans un communiqué publié à cet effet, le général-major Timothée Mujinga rassure, selon lui, la police et les FARDC sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité des populations et la protection des biens. Toutefois, il appelle la population à la vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité. Un autre appel au calme, cette fois au Nord Kivu. Les chefs des confessions religieuses appellent la population de Beni, Butembo et Lubero à l'apaisement, à la non-violence et à la vigilance. Ils l'ont dit hier à Butembo lors d'une rencontre organisée pour évaluer la situation qui prévaut dans le Grand Nord Kivu, région où les combats entre les rebelles du M23 et les FARDC se rapprochent dangereusement des grandes agglomérations comme Lubero Centre, Butembo et la ville de Beni. Dans leur message, ces hommes de Dieu mettent en garde les personnes mal intentionnées qui commettent des actes contraires à la paix en profitant des moments de crise pour semer le chaos. L'abbé Ignace Mumbere, chancelier du diocèse catholique de Butembo-Beni, a lu ce message au micro de la radio Elimu. Voici un extrait choisi par Guylaine Kassassia.
En pareilles circonstances, il n'est malheureusement pas exclu que des agitateurs de tous bords, des manipulateurs d'opinion, des bandits en profitent pour détruire et fragiliser davantage. Frères et sœurs, nous avons déjà trop souffert de l'insécurité chronique et nous ne voulons pas en rajouter encore. C'est pourquoi, au nom de notre foi en Dieu, nous, responsables des confessions religieuses, vous adressons tous cet appel à la paix, à la non-violence et à la vigilance responsable. En effet, nous voulons donc rappeler aux uns et aux autres, aux gouvernants et aux gouvernés, que le respect absolu de toute vie humaine est un devoir de responsabilité auquel personne ne doit se soustraire à aucun moment. Évitons de nous solidariser avec ceux et celles qui n'attendent que le chaos pour abîmer et disparaître. Tout en nous recommandant de rester chez nous à la maison, parce que nous n'avons plus où aller, restons fermes dans la foi au Seigneur.
Dans l'actualité, sachez aussi que le chef d'état-major de la force terrestre des FARDC, le général Christian Daiwel Okura, est arrivé hier jeudi à Bunia en Ituri. Des sources internes de l'armée rapportent que le général Daiwel va rencontrer une délégation des hauts officiers de l'armée ougandaise, UPDF. Les mêmes sources ajoutent que les deux parties vont échanger sur les opérations militaires conjointes annoncées par les deux armées contre les groupes armés en Ituri, signalant que c'est depuis le début de la semaine que des troupes de l'armée ougandaise sont à Bunia. Et puis, le ministre des Finances réaffirme l'engagement du gouvernement congolais à poursuivre avec les deux programmes conclus avec le Fonds monétaire international FMI, malgré la tension sécuritaire dans l'est du pays. Doudou Fouamba-Likoundé a donné ses assurances lors d'une réunion qu'il a eue mercredi avec la directrice de cette institution des Bretton Woods, Kristalina Georgieva, à Washington. Explication, Blaise Ndongala Mayanda.
Dans un communiqué parvenu ce vendredi à Radio Kapi, Le ministre des Finances a exprimé la volonté du gouvernement congolais de respecter ses engagements malgré la crise sécuritaire dans la partie orientale du pays. Dans les mêmes documents, Doudou Fomba Likunde a également réaffirmé la détermination de l'exécutif national à mettre en œuvre ces deux nouveaux programmes conclus avec le Fonds monétaire international sur les bases de la bonne gouvernance et de la rigueur. Pour sa part, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a insisté sur la disponibilité des équipes du FMI pour une collaboration étroite avec la RDC. Elle a en outre exprimé son vœu de voir la paix revenir dans l'est de la RDC afin de créer des conditions nécessaires à la réussite de ces deux programmes en rappelant l'engagement continu du gouvernement congolais dans la consolidation du cadre macroéconomique pour préserver les pouvoirs d'achat de la population. Le FMI devrait débloquer 1,729 milliards de dollars américains au titre des facilités élargies des crédits et 1,38 milliards de dollars américains au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité en faveur de la RDC.
Je vous le disais en titre, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, entend accompagner les familles des personnes déplacées internes, sommet de vider les sites dans et autour de la ville de Goma, au Nord Kivu. Lors du briefing de presse organisé mercredi à Goma, Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR pour le Nord Kivu, a affirmé que son organisation avait entamé la phase d'évaluation des besoins humanitaires dans les localités devant accueillir ces familles exilées depuis des années. Plus détail avec Chris Moukand, ma tante.
Le but annoncé de cette évaluation est d'identifier rapidement les priorités en vue de mettre en place des interventions ciblées visant à accompagner ce retour progressif. Le brusque démantèlement des sites déplacés a mis les familles dans une situation plus qu'embarrassante. Après près de 3 années entières d'abandon de leur milieu de vie, les familles qui ont pris le chemin de retour sont désemparées. Des témoignages renseignent qu'il n'existe plus aucune infrastructure dans la plupart des localités. À Sake, par exemple, il n'y a presque plus de maisons. Pendant que les propriétaires étaient dans les camps déplacés à Goma, des inconnus ont incendié les habitations dans plusieurs quartiers de la cité. À leur retour, c'est la désolation totale. Pas d'abri, pas de plantation, impossible de survivre dans un milieu devenu presque hostile. La situation est identique pour les retournés d'autres localités telles que Chacha, Bweremana, Karuba ou Ngungu. Les familles qui sont retournées ne savent pas par où ou par quoi commencer. Tout est pressant. Il faudrait prioritairement se construire des abris et produire de la nourriture. Aucun espace n'est sûr. La zone n'a jamais été nettoyée de tous les restes de guerre et des cas d'insécurité sont rapportés.
Du côté du Sud Kivu, nous apprenons qu'une brève accalmie s'observe ce vendredi dans la ville d'Uvira. C'est après une journée très agitée hier jeudi. La ville a été secouée par des actes de pillage, de vandalisme, des tirs désordonnés à balles réelles et d'atteinte à la dignité humaine. L'économie de toute la ville a été mise par terre en moins de 24 heures avec une violence inouïe. Un acteur de la société civile locale témoigne sous anonymat le calvaire que la population a vécu hier dans cette ville de la RDC située en face de Bujumbura, la capitale du Burundi. On l'écoute.
Sincèrement, la situation que nous traversons dans la ville de Vera, elle est tellement compliquée du fait que nous assistons à des pillages, à des viols, vols par nos militaires FARDC qui sont restés dans la ville de Vera parce qu'actuellement, ces militaires n'ont plus aucun commandement. La nuit d'aujourd'hui vraiment a été une nuit rouge. Plusieurs maisons ont été visitées par ces militaires qui ont pillé, qui ont volé, qui ont violé même nos mamans. Et c'est là que nous profitons l'occasion pour alerter nos autorités au niveau de Kinshasa parce que toutes les autorités décident qu'ils vont prendre fuite. C'est-à-dire aujourd'hui la population est abandonnée à leur triste sort. En tout cas, nous déplorons cette situation et nous informons vraiment Kinshasa de voir comment vraiment nous venir en aide, mais aussi la communauté internationale de voir comment s'impliquer pour mettre fin à cette situation.
Pas facile de se déplacer à Kinshasa depuis un temps. Ils sont nombreux actuellement, ces Kinois qui font chaque jour le pied sur une bonne partie de leur trajet pour se rendre à leurs activités quotidiennes. Avoir un moyen de transport est assez difficile dans plusieurs coins de la ville et même lorsqu'on arrive à en avoir, on y passe des longues heures coincées dans des bouchons. Le prix de la course varie selon le conducteur, les heures et la situation de la route. Ils sont nombreux, ces Kinois qui appellent les autorités compétentes à trouver une solution. Gloria Lutu et Moudoumbi Benjamin signe ce reportage.
À Kinshasa, l'accès au transport en commun reste un défi majeur. Et même lorsque l'on attrape un bus, arriver à destination est un autre problème.
Il y a trop de demi-terrains. Le receveur embarque pour 24, mais arrivé à Assanef, il nous fait descendre à cause des bouchons. Entre-temps, il nous a déjà fait payer 2000 francs congolais. C'est dû aussi à l'état de route. Nous arrivons en retard au service, chacun fixe son prix. Je gagne combien le mois pour dépenser 10 000 francs par jour en transport? Avec ça, je ne sais même pas m'acheter une boisson gazeuse au service. C'est avec souffrance que nous nous déplaçons du côté des taxis moto. Le prix est encore pire.
Ces usagers fatigués mettent en cause la responsabilité des autorités locales en ce qui concerne les embouteillages.
Ce n'est pas une circulation, c'est un désordre routier causé par l'hôtel de ville.
La route n'est pas bien entretenue, il y a des tracasseries routières. Les autorités doivent veiller sur ça parce que les chauffeurs trouvent ça comme justification pour nous faire subir ce qu'ils nous font subir.
Ils appellent les autorités provinciales en charge du transport à trouver des mécanismes urgents pour éradiquer ce fléau.
L'hôtel de ville est censé organiser la route et tout ce qui se trouve à Kinshasa. C'est à lui à mettre de l'ordre dans les affaires de la route.
Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur publié mercredi, il est annoncé la suspension à partir du 25 février prochain de la mesure de la circulation alternée sur certains artères de Kinshasa pour une évaluation plus approfondie.
Actualité internationale.
La Côte d'Ivoire franchit un cap majeur dans ses relations avec la France. Le pays a officiellement pris hier le contrôle de la dernière base militaire française qui s'est trouvée encore sur son territoire. Ce geste marque une nouvelle phase dans la réorganisation de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest, une région où les relations avec Paris ont été de plus en plus tendues ces dernières années. La cérémonie de transfert s'est tenue en présence des autorités ivoiriennes et françaises. À cette occasion, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire a annoncé que la base désormais sous contrôle ivoirien porterait le nom du regretté général Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne.
L'invité.
Trois semaines après le lancement à Kinshasa de la campagne de dons de sang pour les militaires FARDC et les civils blessés de guerre dans l'est du pays, quels sont les résultats obtenus? La mobilisation est-elle au rendez-vous dans les centres de collecte? Pour répondre à ces questions, nous recevons le docteur Liliane Bouiza, directrice du Centre national de transfusion sanguine. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Docteur Liliane Bouiza, bonjour.
Bonjour.
Depuis trois semaines, le gouvernement conduit une campagne de dons de sang en faveur de la population de l'Est. Quelles sont les motivations de cette campagne?
Comme vous le savez, notre pays aujourd'hui, il est agressé, il est en pleine guerre et nous enregistrons beaucoup de blessés de guerre et nos militaires, nos vaillants sont en train de mourir par manque de sang et aussi nos frères et sœurs aussi qui sont blessés. La population du Nord Kivu, de l'Est actuellement, n'est pas dans un état psychologique pour donner vraiment du sang comme il faisait par le passé. Au vu de cette carence des produits sanguins, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, a initié cette campagne de dons bénévoles du sang pour vraiment appuyer, aider cette population longtemps meurtrie.
Jusque-là, quels sont les résultats de cette campagne?
On a senti vraiment cet altruisme qui est en train vraiment de naître dans cette population de Kinshasa. Ils sont en train de passer, s'inscrire pour partager un peu de leur sang. Il faut dire qu'ils donnent du sang, mais ce n'est pas encore suffisant tel que nous le voulons pour satisfaire le besoin en sang dans la partie de l'Est.
Et comment les sangs collectés à Kinshasa va arriver à la population de l'Est?
Effectivement, comme je vous ai dit, qu'il y a vraiment cette volonté des autorités sanitaires au niveau du ministère. Le ministre de la Santé n'aménage aucun effort pour forcer un couloir humanitaire qui est déjà un acquis. Aujourd'hui ou demain, vous allez vraiment voir les images que les poches de sang sont en train d'aller vers Goma en passant par le couloir humanitaire.
Et au niveau du Centre national des transfusions sanguines, est-ce que vous avez les capacités de répondre à tous les besoins qui se posent actuellement dans les pays?
Oui, effectivement, à ce qui concerne vraiment cette capacité technique, nous avons des ressources humaines capables de le faire, nous avons du matériel qu'il faut, nous avons des sensibilisations dans les trois coins de la ville. Il y a l'autorité sanitaire qui nous appuie dans cette campagne, dans cette sensibilisation. Nous sommes en train de faire un effort pour contenir la situation jusque-là. Mais ce que je vais dire, le besoin ne fait que s'accroître.
Et dans ces conditions, quel message avez-vous à donner à la population de Kinshasa afin de mobiliser plus de monde dans cette campagne?
Ce que je veux dire, que le sang, vraiment, c'est la vie. Si on n'a pas de sang, c'est difficile qu'on résiste. Alors, nous tous, nous sommes là, un peuple. Les nord qui vont, les sud qui vont, l'est, le sang est en train de couler. Nos voyants militaires sont blessés. Les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas du sang. Actuellement, dans la partie de l'est, le sang est devenu vraiment une denrée rare. Les femmes enceintes qui accouchent, qui ont besoin du sang, alourdissent encore le besoin en produits sanguins. Nous, les Kinois, frères et sœurs de cette population de l'est, nous avons besoin de votre soutien. En donnant un peu de votre sang, vous allez sauver toute une vie. Pour ceux-là qui n'ont pas encore donné du sang, nous les attendons dans notre site de travail. En commençant par le Centre national de transfusion sanguine au niveau de Bandal, à côté des communes de Bandal. Et aussi, nous sommes en train d'organiser des points de collecte dans les différents recoins. Je vais citer le Palais du Peuple, certains hôpitaux, nous allons communiquer l'agenda ici présent. Donc, le besoin de sang est grand. Nous avons besoin de tout le monde. Il suffit que vous soyez majeur. Vous avez 18 ans. Vous êtes en bonne santé apparente. Vous n'êtes pas une femme enceinte ou allaitante. Nous vous attendons dans nos points de collecte du sang.
Docteur Liliane Bouiza, je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national de transfusion sanguine. Merci.
Merci.
Notre invité répondait aux questions de Rosalie Zawadi. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.